Radio Scoop Explore, le podcast de la rédaction. L'info locale comme vous ne l'avez jamais entendu.
Pouvoir caché, réseau d'influence, club réservé, depuis des siècles, la franc-maçonnerie alimente fantasmes et soupçons. Mais que se passe-t-il vraiment derrière ces portes closes? Et surtout, qu'ont-il à cacher ou à prouver? En finir avec le culte du secret, les francs-maçons jouent la transparence. Radio Scoop Explore, épisode 34, par Philippe Lapierre.
Une salle hors du temps. Colonnes blanches, symboles énigmatiques, au centre, un fil à plomb suspendu. Ici, on coupe avec le monde extérieur. À Villeurbanne, nous venons de franchir une porte habituellement fermée, celle d'un temple maçonnique tout juste renommé Jean-Jacques Gabu, journaliste et auteur, disparu en 2024 à Lyon. La franc-maçonnerie, 3 siècles d'existence en France, 160 000 membres aujourd'hui, une quarantaine d'obédiences, et toujours les mêmes soupçons. Manque de transparence, réseau d'influence, et une question insistante, quelle place pour les femmes? Pour répondre, un homme accepte de parler à visage découvert, Jean-Raphaël Nothon, grand maître de la Grande Loge de France.
Nous souhaitons expliquer qui nous sommes vraiment, parce que nous n'avons rien à cacher. Et parce que ce qui se passe dans nos travaux en loge est quelque chose de formidable dont nous sommes très fiers.
Car à l'intérieur, pas de complot, mais des réunions très codifiées.
À la Grande Loge de France, dans le cadre de la méthode de travail qui est la nôtre, nous avons 2 particularités, assez peu comprises. La première, c'est que le premier travail qui est le nôtre, c'est d'essayer de s'améliorer soi-même. Et de le faire entouré par ses frères dans une loge. Parce que avant de donner des leçons au monde entier, il faut déjà essayer de balayer un peu devant sa porte. Et puis la deuxième vocation que nous avons est le fait d'essayer de transmettre à l'extérieur nos valeurs et de le faire de manière individuelle. Vous ne verrez jamais de pétition signée Grande Loge de France. Non, ce n'est pas ça du tout. Nous, dans notre méthode qui s'appelle le rite écossais, parce que né en Écosse, nous considérons qu'il nous faut faire des efforts autour de nous, tous les jours, au quotidien, pour essayer de faire en sorte que nos valeurs, qui sont des valeurs de respect de la liberté de conscience de chacun, de tolérance, de fraternité, de mutualisation des moyens au service des plus démunis, que toutes ces valeurs-là soient diffusées autour de nous dans le cadre de nos responsabilités.
Une démarche intime, un sujet, une question.
Comment ça se passe? Eh bien, le vénérable maître, c'est le président de la loge, donne, en début d'année, à un certain nombre de frères, des sujets de réflexion. Je vais donc vous donner un sujet de réflexion. Je choisis toujours le même, mais parce qu'il est intéressant, et je pense que pour vos auditeurs, il le sera. Y a-t-il des limites à la tolérance? Et vous avez 3 mois, 4 mois pour y réfléchir. Non pas y réfléchir au sens de ce que nous dit Spinoza ou Saint-Augustin, on s'en fout. C'est vous, qu'est-ce que vous en pensez vraiment? Et ce travail va vous torturer, va vous remuer, va vous bouleverser, et au bout de 3 mois, vous allez le présenter devant tous les frères de la loge. Ainsi, vous allez par petites touches vous transformer grâce à ce travail, et les frères de la loge vont vous poser des questions et vont se transformer eux-mêmes. C'est ça le fond du travail maçonnique. Et ça, sur plusieurs années, aboutit à un effet de transformation personnelle, intime. Voilà, c'est pas plus bête que ça.
Dans ce décor inchangé depuis des siècles, des rangées de sièges face à face, de part et d'autre du vénérable, 3 règles de base, les apprentis se taisent, on ne se coupe pas la parole et on respecte la conscience de l'autre.
Le rituel, par exemple, le fait de ne pas parler pour les apprentis, le fait de ne jamais se couper la parole, fait partie du rituel. Pourquoi l'existence de ce cadre que l'on va qualifier d'un peu ésotérique ? C'est pour permettre un sas entre le monde extérieur très chaotique et cet espace qui doit être un espace sacré, serein, où l'on peut se poser dans un cadre qui soit un cadre apaisé.
S'il n'y a rien à cacher, pourquoi tant de mystères entourent encore la franc-maçonnerie? Pendant longtemps, elle a cultivé le secret et forcément les fantasmes se sont installés.
Cette volonté de rester secret a généré des fantasmes. Et en particulier, on va les citer, des fantasmes d'influence, des fantasmes de richesse. Et nous voyons d'ailleurs de manière assez anecdotique certains candidats qui viennent nous voir en disant « je veux devenir riche, je veux devenir influent ». Ceux-là, en général, on les laisse sur le trottoir.
Face à ce soupçon persistant d'opacité, certains veulent aujourd'hui ouvrir les portes. Certaines loges proposent même des visites pour le grand public pendant les journées du patrimoine.
Nous remarquons qu'il y a encore beaucoup d'inconnus par rapport à ce que nous faisons. Je remarque que vous m'avez avoué il y a quelques instants que c'était la première fois que vous rentriez dans un temple maçonnique. Donc il y a un travail d'explication. Et puis il y a une deuxième motivation. C'est que dans cette période chaotique en matière de fake news, de fantasmes divers et variés, de calomnies parfois, il est bon de ne pas laisser les autres expliquer à notre place qui nous sommes vraiment.
Deuxième soupçon, l'affairisme, celui d'un réseau caché ou d'un levier professionnel dans un entre-soi très fermé.
C'est pas du tout l'objet. Je ne dis pas que, à l'occasion, deux frères qui se connaissent puissent échanger d'une vie professionnelle ou avoir des liens communs par ailleurs dans la vie de tous les jours. Mais le vrai objet, c'est pas celui-là. Le vrai objet consiste à porter des valeurs et à faire en sorte que ces valeurs soient diffusées. Alors maintenant, je serais tenté de manière provocatrice de vous dire, être des hommes d'influence, oui, bien sûr. Évidemment, nous le revendiquons. Être des hommes d'influence, des vertus et des valeurs qui sont les nôtres, de manière à ce qu'elles soient plus répandues.
Pas un LinkedIn secret donc, mais une influence revendiquée autrement. Tolérance, liberté de conscience, fraternité, des principes difficilement mesurables. Et puis il y a un troisième sujet, plus sensible encore, la place des femmes. Aujourd'hui, la plupart des loges restent exclusivement masculines, comme ici.
Pourquoi cette différenciation? Parce qu'il se trouve que dans les travaux dont on parlait tout à l'heure, parfois, vous-même, quand vous allez me répondre à la question « Est-ce qu'il y a des limites à la tolérance ?», vous serez peut-être amené à parler de choses qui vous sont très intimes. Et que nous pensons que dans le cadre de cette intimité de réflexion et d'expression, c'est plus facile s'il n'y a pas le trouble avec la présence de l'autre sexe, dans un cas comme dans l'autre. Et d'ailleurs, les femmes, elles également, de la Grande Loge Féminine de France, revendiquent de pouvoir avoir leurs travaux entre femmes seulement. Et l'expérience démontre que depuis 300 ans, ça fonctionne plutôt pas mal.
Historiquement, ce sont les Français qui ont introduit des femmes dans la franc-maçonnerie dès le XVIIIe siècle. Mais aujourd'hui encore, la séparation domine. Une organisation héritée du passé, un modèle qui résiste aux évolutions de la société et peut-être un frein à son ouverture. D'autant que la franc-maçonnerie traverse une période de questionnement. Baisse des effectifs au niveau mondial, deux fois moins de francs-maçons que dans les années 1960. Un vieillissement marqué, 30 à 40% des initiés qui quittent les loges après 5 ans. Dans un monde obsédé par la transparence, la franc-maçonnerie avance sur une ligne de crête, s'ouvrir et expliquer, mais ne pas se renier, se transformer soi-même pour agir sur le monde sans le crier sur les toits.
Vous avez deux manières de faire. La première, c'est de vous déclarer comme quelqu'un porteur de vertu. Vous êtes quelqu'un de courageux. Je vous crois pas. Vous n'avez pas à dire que vous êtes quelqu'un de courageux. Vous avez à démontrer par vos actes que vous êtes courageux. Eh bien, il en est de même pour les francs-maçons. Il y a une phrase très importante de notre rituel qui dit ceci. Êtes-vous franc-maçon? La réponse n'est pas oui, non. La réponse c'est « mes frères me reconnaissent comme tel ». Ça signifie quoi? Ça signifie qu'une fois que vous allez quitter ce temple maçonnique et que vous allez vous retrouver dans la vie de tous les jours, ce qui va compter, c'est pas qu'il y ait sur votre front un post-it avec marqué « franc-maçon ». Ce qui va compter, c'est que la manière dont vous vous comportez donne envie de vous rencontrer parce que la personne qui est en face de vous se dit « cet homme-là, il a des valeurs que j'apprécie ». On appelle ça un travail d'exemplarité. Et donc, l'idée n'est pas de se balader dans la campagne ou de se balader dans les magasins et dans les villes en disant « je suis franc-maçon, rejoignez-nous ». Non, l'idée est de démontrer par notre action, par notre comportement, que les valeurs qui sont les nôtres, nous les diffusons par ce biais-là dans la vie de tous les jours.
Pas de badge, pas de signe distinctif, juste une idée que l'influence passe d'abord par l'exemple. C'est aussi la conclusion de Roger Daché, initié il y a un peu plus d'un demi-siècle, historien de la franc-maçonnerie, invité de Philippe Brunet-Lecomte le 21 mai à Lyon dans une conférence philo décrypte.
Je crois que l'erreur majeure, c'est de croire que c'est une méthode de développement personnel. Je suis très hostile à cette idée-là, qui est surtout l'aspiration à une enflure du moi. Et la maçonnerie, ça n'est pas travailler à l'hypertrophie de son moi, c'est tenter avec d'autres et au milieu d'autres et avec leur aide à se hisser au-dessus de soi-même.
Radioscoop Explore, le podcast de la rédaction, à retrouver sur l'appli Radioscoop, radioscoop.com et nos plateformes.